Les balados au IC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série d'entretien Pop en stock.
Chers auditeurs et auditrices, chers popovores, popophiles, popophages de tout poil, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Pop en stock, nouvelle mouture transatlantique et zoomesque avec William Blanc. Nous avons le grand plaisir, la grande chance de recevoir à nouveau William. Bonjour William.
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler de son livre qui, donc Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantasy, paru chez Libertalia et qui trace justement une synthèse analytique de l'évolution de la fantasy. Tu commences d'ailleurs par une belle entrée en matière. Nous sommes nos ailleurs. Nous créons des univers parce que le monde tel qu'il est ne nous plaît pas et nous fait parfois peur. Donc, c'est presque une maxime. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire donc ce livre par rapport à ce que tu avais déjà fait sur le roi Arthur, notamment l'analyse de l'imaginaire arthurien dans le monde moderne, qui était déjà une analyse très politique, on y reviendra une autre fois. Et qu'est-ce qui t'a amené donc à cette plongée synthèse dans la fantasy?
Déjà, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et puis, on ne va pas se le cacher, l'occasion faisant le larron, c'est aussi un livre de circonstances, en fait, hein, parce que c'était la dernière saison de Game of Thrones et tout. Voilà, donc mon éditeur a voulu marquer le coup, dit tiens, faisons un petit bouquin sur la fantasy. Je suis d'accord, pas de souci. Et puis, voilà, j'ai voulu en profiter parce que. Je me rappelle quand les premières saisons de Game of Thrones étaient sorties, j'avais déjà été interviewé dans la presse et puis même je voyais dans la presse généralement des réactions comme enfin on est face à de la fantasy politique, voilà et tout. Et ça m'avait légèrement fatigué parce que quand on connaît un petit peu la fantasy, quand on est un fan de fantasy ou une fan de fantasy, on sait quand même que la fantasy et la politique c'est une histoire assez lointaine quoi. Et puis quand on creuse, on se rend compte que quasiment à la fondation du genre, donc même si après on pourra débattre de quand apparaît le genre et tout, mais voilà, on est à peu près tous d'accord pour dire que la fantasy apparaît, enfin tous, par exemple avec Anne Besson et tout, pour dire que la fantasy apparaît plutôt au 19e siècle et que ce genre est une réaction à la modernité au sens de modernité capitaliste industrielle, quoi. C'est, en fait, c'est la personne qui, pour moi, en fait, incarne le plus cette création, hein, on y reviendra après, c'est William Morris. Hein. William Morris, qui était un membre de la confrérie pré-raphaélite, un poète, un peintre, un décorateur d'intérieur, il a tout fait. Voilà, donc, c'est une espèce, c'est un peu, pour l'Angleterre, c'est un peu l'équivalent de Victor Hugo en France, quoi. C'est une espèce de touche-à-tout assez génial, et un éditeur aussi. Et donc William Morris, à la fin de sa vie, dans les dernières années de sa vie, enfin dans les 20 dernières années de sa vie, il devient militant socialiste révolutionnaire, hein, donc voilà, vraiment très très radical en fait, hein, donc proche notamment d'Engels, de la fille de Marx et tout. Il participe au congrès fondateur de la Seconde Internationale en 1889. Et là où c'est intéressant, c'est qu'au même moment, il commence à publier des œuvres de fantasy. Hein, ce qu'on pourrait appeler de la proto-fantasy, hein, ou même si je n'aime pas trop ce terme, avec notamment ce roman qui n'est pas traduit en français pour l'instant, qui s'appelle The House of Wolflings, donc, qui est une espèce de fantasy historique. Et puis, c'est en 1889, puis petit à petit, en fait, hein, il meurt en 1896, mais en 7 années, il publie de nombreux romans de fantasy comme La Source au bout du monde, des choses comme ça. Et tout. Donc, voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que Morris voyait la fantasy comme une espèce de réaction au monde moderne, pas au sens de réaction réactionnaire en fait, hein, mais comme une espèce de projet politique pour lui. Hein. La révolution socialiste ne doit pas amener une espèce d'utopie industrialiste et tout, comme ça va être le cas après, comme d'autres vont le défendre et tout, mais plutôt une utopie champêtre où les gens vont revenir à une espèce de nature, voilà, donc d'état de nature, ou voilà, quasiment, quoi. Donc,
oui, donc, c'est un paradoxe que tu soulignes parce que initialement, ce médiévalisme, donc c'est le terme qu'utilisent beaucoup les étudiants, les historiens, surtout anglo-saxons, par rapport à l'imaginaire du Moyen-Âge dans la modernité, au fond. Donc, ce médiévalisme, au début, il est plutôt placé sous le signe de la réaction conservatrice du romantisme initial. Donc, bon, dans le romantisme, il y a évidemment aussi le courant socialiste et le courant révolutionnaire, mais disons qu'il y a une première étape où, en tout cas, le Moyen-Âge est toujours un peu paradoxal parce qu'il est gothique chez les gothiques, donc il est à la fois l'emblème d'une sorte de tyrannie, superstition catholique chez les protestants, etc. Mais en même temps, c'est ça qui fait vendre le gothique. Donc, en même temps, ça fascine. Donc, ça rebute, ça fascine. Et puis, il y a dans le romantisme des gens qui vont faire, et là, peut-être parce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans la proto-fantasy, si l'on veut, c'est comme Undine de La Motte Fouquet, des textes comme ça, des romantiques allemands qui sont antérieurs et mais qui s'inscrivent aussi dans la problématique que tu évoques. Sauf qu'à un moment antérieur. Et là, il y a toute l'ambiguïté de est-ce que le retour vers le Moyen-Âge des romantiques, c'est une sorte de nostalgie, comme ce sera le cas pour les restaurations monarchiques, etc., etc. Et le paradoxe, comme tu l'évoques, c'est qu'avec Ruskin et Morris, cette nostalgie médiévaliste, elle change de camp.
Ouais, puis même on peut évoquer aussi un personnage comme Wagner, en fait. Hein. Wagner qui écrit la tétralogie donc du Ring. Il commence à l'écrire en pleine poussée révolutionnaire en 1848. Hein. Bon, il va finir le Ring, donc l'anneau de Nibelung, est mis en scène pour la première fois en fait en 1876. Donc il y a 28 ans qu'on passait entre les deux. Mais il n'empêche qu'à l'origine, il va y avoir chez Wagner une forme de. Et ça se voit dans des personnages comme le personnage du nain, donc c'est Albéric, hein, donc le roi des nains, qui contrôle des forges, etc., qui oppresse les autres nains et tout. Il y a une espèce de caricature, hein, du maître de forge, hein, tout ça. Donc oui, il y a cet usage, mais qui est un usage, en fait, ouais, un peu ambigu, en fait, hein, du Moyen-Âge. Et même chez quelqu'un qui aime Ruskin, c'est quelqu'un qui déteste, qui a vraiment une aversion pour le monde industriel, mais en même temps, c'est pas un progressiste non plus, quoi. Donc, c'est intéressant. Et Tolkien, c'est un peu le même genre, en fait. Donc, voilà. Donc,
c'est aussi dans ce médiévalisme, parce que bon, au même moment, il y a un médiévalisme plus Walter Scott, etc., roman historique, Victor Hugo, etc. Mais disons que dans cette matrice de la fantasy, parce qu'il y a peut-être plusieurs matrices qu'on peut imaginer de la fantasy, c'est un genre assez hybride, comme tous les genres d'ailleurs, mais contrairement au côté historique qui, lui, parfois accentue justement les côtés cruels ou les côtés sombres du Moyen-Âge, etc. Alors, ce qui est curieux, c'est que en récupérant l'imaginaire médiéval, donc l'imaginaire de ce qui était fabuleux, féerique, notamment arthurien, c'est un médiévalisme qui s'éloigne de plus en plus du Moyen-Âge historique pour créer un Moyen-Âge purement fantastique, au fond surnaturel, où on prend les croyances qu'on attribue d'ailleurs des fois un peu anachroniquement au Moyen-Âge et on crée une sorte de monde uchronique dans une certaine mesure où c'est le Moyen-Âge, mais c'est pas tant le Moyen-Âge des vrais personnages, chevaliers, etc., mais plutôt le monde tel qu'il était rêvé au Moyen-Âge par les récits arthuriens, les sagas islandaises, etc. Donc, c'est déjà une sorte de double mythification, un récit curieux qui est composite. Mais bon, pour revenir à ce que tu disais justement, le paradoxe qui est pourtant très important par l'influence que Morris va avoir, c'est qu'avec Morris, il y a ce nouveau paradoxe qui est de dire. Bon, le retour au Moyen Âge, c'est un saut dans le futur. C'est ça qui est
Ouais,
encore une chronologie bizarre, finalement.
c'est un peu ça, quoi. Même il va écrire, hein, Maurice, il va écrire une espèce d'utopie, en fait. Hein. C'était très à la mode, hein, chez les militants progressistes. Hein. Donc, il va écrire une utopie qui s'appelle Les Nouvelles Nulle part, où en fait, quand on lit bien, on a une espèce de description, ouais, très très bucolique, une espèce d'Angleterre bucolique et tout, dans un futur où en fait le travail industriel sera remplacé par l'artisanat et tout. C'est tout un truc chez Morris qui vient de Ruskin en fait. Hein, donc chez Morris qui dit en gros il faut remplacer le travail industriel par l'artisanat parce que l'industrie, le travailleur dans l'industrie, l'ouvrier, c'est le prolétaire, donc il est dépossédé de son moyen de production, alors que l'artisan, lui, est libre, c'est quasiment un artiste, en fait, hein. D'ailleurs, on peut enlever le quasiment parce que pour Maurice, hein, il ne supporte pas la séparation entre l'artisan et enfin, entre l'artisanat et l'art, quoi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va beaucoup militer pour réhabiliter en fait ce qu'on appelle les arts décoratifs, en fait, hein, de manière un peu méprisante parfois, quoi. Donc, y a tout ce travail-là chez Maurice, et ça passe pour lui aussi par la création de livres qui racontent à la fois, ça c'est intéressant parce que même le livre de fantaisie est pensé chez Maurice, le livre en tant qu'objet. Donc en fait, le livre de fantaisie, il faut qu'il soit beau parce qu'il faut qu'il entraîne les gens vers un ailleurs, en fait, hein, pour les libérer quelque part de leur aliénation, en fait, hein. Donc il faut que le livre soit beau, hein. Je pense que c'est Maurice, je ne me rappelle plus, je crois que j'avais une citation qui parlait de ces cathédrales de papier, en fait, hein, parlant de ces livres, en fait, hein, donc, il faut que le livre soit beau, il faut que le livre soit illustré aussi, hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui la fantaisie contemporaine, c'est que les livres de fantaisie sont souvent illustrés, il y a des
Oui,
éditions très belles et tout, notamment.
et aussi l'ekphrasis, le fait des longues descriptions, alors que
Oui, tout à fait.
d'autres genres commencent à s'entasser. La fantasy, elle, est friande de longues descriptions.
Tout à fait, et même des descriptions qui ont parfois la comment la ou des textes, hein, qui ont parfois, et ça c'est Maurice, c'est pour ça que c'est un peu difficile à traduire, parce que Maurice aime bien employer des tournures archaïsantes et tout. Et ça, c'est pareil, là je suis en train de relire, voilà, par exemple, les chroniques d'Oakmund de Moorcock, en fait, hein, et parfois chaque chapitre, hein, qui est édité à la fin des années 60, hein, et chaque chapitre commence par une espèce de pseudo-citation d'une pseudo-chronique, tu vois, donc ça c'est un truc, voilà, c'est... Bon, enfin voilà quoi, donc, c'est pareil, tu vas avoir ça, même si c'est pas de la fantaisie, mais ça on pourra en débattre pendant des heures, hein, je pense, hein, de Dune. Hein. Dune, c'est pareil, avec des espèces de chroniques, voilà. Tolkien va faire pareil, plus ou moins pareil avec le Silmarillion, enfin voilà. Et Martin avec le Trône de Fer. Ursula Le Guin va faire pareil avec Terre-Mère et tout. Martin, il a fait des fausses chroniques, hein, sur son monde, en fait. Voilà, donc, en fait, c'est des chroniques du passé, en fait, hein, par rapport à l'action de Game of Thrones, hein, c'est des chroniques du passé. Ouais, il y a cette espèce d'insistance comme ça, voilà, donc, sur voilà, l'aspect archaïsant, l'aspect, voilà. Et le but, c'est aussi de créer, hein, ça, c'est démoré, ça, le but, c'est de créer, en fait, un monde, en fait. Voilà, le but en créant ce monde, hein, c'est de favoriser un décalage vis-à-vis de notre contemporain. Voilà, de dire, voilà, il y a de créer un ailleurs, quoi. Et pour ça, il faut que ce soit immersif. Et pour que ce soit immersif, il faut en fait construire un univers, quoi. Donc, bon, alors après, évidemment, celui qui a poussé peut-être la logique le plus loin, hein, en fait, hein, de manière parfois assez affolante, hein, mais c'est Tolkien, en fait, hein, donc là, on a une espèce de construction absolument gigantesque, hein.
C'est curieux du point de vue politique, tu soulignes le fait que Tolkien est peut-être le plus direct héritier de Maurice, avec peut-être l'autre Campbell, le gars qui avait fait Jurgen et ses cousins dans les années 20-30. Mais disons que c'est curieux parce qu'ils sont politiquement un peu aux antipodes, Tolkien et Maurice.
Alors oui, tu as raison, parce que Tolkien, en effet, alors bon, Maurice meurt en 1896, Tolkien, lui, naît 4 ans plus tôt, il naît en 1892, donc, c'est pas du tout la même génération, en fait, alors, vraiment pas. Et en plus, ouais, Tolkien, enfin, c'est un type qui, de prime abord, en fait, il vient d'un milieu similaire à Maurice, hein, c'est plutôt la petite la bonne bourgeoisie anglaise, hein, pour simplifier. Mais Tolkien, en fait, oui, Tolkien est plutôt conservateur en plus, hein, et même il va le rester toute sa vie, en fait, hein. Mais il va arriver un truc à Tolkien qui n'est pas arrivé à Maurice, hein, qui explique d'ailleurs, il y a quand même une différence majeure entre Tolkien et Maurice, hein, c'est que Tolkien est quand même plutôt pessimiste, en fait, hein. Tolkien ne place pas, n'a pas de pensée socialiste, en fait, hein, il ne place pas son utopie dans le futur, en disant, voilà, un jour on va revenir dans une espèce de pseudo-Moyen-Âge, dans un Moyen-Âge idéalisé et tout, voilà, donc... Et non, Tolkien, pour lui, en fait, ça a disparu. La modernité a gagné, en fait. Hein. Et par contre, hein, il est catholique. Hein, il dit, un jour, on va retrouver ça, mais ce jour-là, en fait, on va retrouver en tout cas un état de grâce. Mais l'état de grâce, bah, c'est tout bêtement l'Apocalypse, hein, la parousie, la venue du Christ sur Terre, quoi. Bon, mais par contre, ce qui va beaucoup influencer Tolkien, même si, encore une fois, il est très influencé par Maurice et tout, donc, comme beaucoup de gens, en fait, en Angleterre. Donc là, pour le coup, Maurice va avoir une telle influence, hein, c'est un peu comme Hugo, encore une fois, qui va toucher tout le spectre politique, en fait. Hein, eh bien, Tolkien, il va lui arriver un truc, c'est qu'il va aller, il va aller au front, en fait. Hein, il va être mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et là, il y a un bouquin d'ailleurs très bien qui a été publié par John Garth, en fait, hein, qui s'appelle Tolkien et la Grande Guerre, qui est vraiment vraiment passionnant pour le coup. Hein, donc, sur lequel je me suis beaucoup appuyé. Mais en fait, Tolkien, va créer, enfin déjà, il va être mobilisé sur le front de 14-18. D'ailleurs, il sera mobilisé pas très loin de chez moi. D'ailleurs, c'est assez marrant. Il va perdre, d'ailleurs, encore une fois, pas très loin de chez moi, donc pas très loin d'Arras, en fait. Hein, donc, un ami très proche, en fait, hein, donc, pendant les tranchées. Il va être blessé, il va tomber malade dans les tranchées. Et c'est pendant son séjour. Maintenant, c'est une histoire qui devient assez connue, hein, parce qu'il y a un film qui est sorti là-dessus. Hein.
Oui, le biopic est très centré sur cette première, ce premier groupe, parce qu'on connaissait beaucoup les Inklings, qu'il fera plus tard à Oxford avec C.S. Lewis et Charles Williams, mais ça, c'est le tout premier groupe qu'il a créé en tant qu'adolescent.
TCBS, ouais. TCBS, ouais. Donc, ouais, c'est voilà. Et Tolkien va commencer à écrire, à créer son monde imaginaire, hein, en pleine convalescence en 17, alors qu'il est en train de se remettre, hein, de la fièvre des tranchées, donc dans un hôpital en Angleterre. Et c'est là où c'est fascinant, c'est que il commence à écrire, hein, cette première nouvelle qui se déroule dans. C'est la première fois qu'il écrit un texte qui se déroule dans ce qui va appeler qui va s'appeler après la Terre du Milieu. Donc cette nouvelle s'appelle La Chute de Gondoline, et quand on lit bien la chute de Gondoline, hein, l'action c'est simple, hein, c'est l'action principale, hein, c'est une cité elfique qui est attaquée par une armée d'orques et de dragons aux ordres de Melkor, en fait, hein, qui après va devenir Morgoth, qui va être en fait quelque part le préfigurateur de Sauron, en fait, hein, dans l'univers de Tolkien. Bah, quand on lit bien ces orques et ces dragons, hein, la manière dont Tolkien est décrit, les orques et les dragons, bah, tout bêtement, ce sont des tanks, en fait, hein, et des soldats modernes, en fait, hein, donc, qui attaquent justement cette espèce de cité idéale, médiévaliste idéale, hein, qui est la cité de Gondoline, en fait. Hein, donc, oui, donc, et ça, en fait, Tolkien va. Ça va se retrouver régulièrement dans l'œuvre de Tolkien. Hein. Et Tolkien va le dire, en fait, hein, même. Il va l'affirmer publiquement quand il va éditer, il va y avoir la seconde édition du Seigneur des Anneaux en poche, je crois que c'est en 61. Il va réagir, parce que pas mal de gens ont dit que le Seigneur des Anneaux, c'était une espèce de transposition dans un univers imaginaire de la Seconde Guerre mondiale. Tolkien va faire non, en fait, moi, ce qui m'a marqué, en fait, hein, c'est la première, en fait. Hein, donc, arrêtez de parler pas de la Seconde Guerre mondiale. Hein.
Mais au fond, tu fais bien de signaler une sorte de double traumatisme. Donc, il y a le traumatisme de l'industrialisation qui, c'est pas un hasard que ce soit tous les écrivains britanniques, dans le sens
tout à fait.
C'est l'Angleterre qui a été complètement ravagée. Encore maintenant, quand on va en Angleterre, malgré tout ce côté depuis les années 90 d'essayer de réintroduire, pastoraliser un peu le passé industriel, mais au fond, toute une partie de l'Angleterre devient une immense usine. Donc, Manchester, Liverpool, etc., etc., même Londres, les descriptions,
Birmingham et tout.
Les trucs de l'époque, c'est vraiment, les usines sont partout à une échelle inimaginable ailleurs. C'est-à-dire que c'est là où vraiment, en Angleterre, il y a un traumatisme réel.
Qui touche le paysage, en fait. Oui. Hein. Enfin, en plus, c'est pareil, moi j'habite dans une ancienne région minière, en fait, hein, donc voilà, dans le nord de la France, donc c'est pareil, en fait. Hein, enfin, je vois des photos, aujourd'hui c'est très vert, en fait, hein, donc, mais quand je vois des photos des années 30 et tout, c'est noir parce qu'il y a du charbon, d'exploitation charbonnière, enfin, des houillères partout. Bon, il faut imaginer que là, l'Angleterre s'est multiplié en termes de plus de concentration, s'est multiplié par 10, en fait. Hein, donc,
oui, puis c'est l'image apocalyptique qu'avait William Blake quand il parlait des Dark Satanic Mills, non, sorte de moulin satanique noir, qui est déjà une image de fantasy. Il y a un rapport intéressant entre Blake et la fantasy.
Oui, en effet, William Blake, on pourrait faire des parallèles aussi, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, enfin, en tout cas, Tolkien, il y a ce rapport-là, en fait, hein, qui.
Oui, chez Tolkien, ça se rajoute la guerre mécanique. Ouais. Donc, en fait, il y a comme un double. Il hérite le traumatisme de Maurice, mais en plus, il y a le traumatisme des tanks et lance-flammes que tu évoques, justement. Ouais.
Après, justement, ce qui est intéressant, c'est que Tolkien. Pour guérir ça quelque part, parce que bon, la chute de Gondoline, par contre, c'est un texte négatif, en fait, parce que concrètement, c'est la ville se fait cramer, en fait, hein, donc, par les armées d'orques et de dragons. Donc, mais là où c'est intéressant, c'est que quand il va écrire Le Seigneur des Anneaux, par exemple, alors moi, je me rappelle, c'est une anecdote que je raconte souvent parce que c'est frappant. Moi, quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux la première fois, quand j'avais 14 ans, bon, les trois premiers chapitres, hein, en fait, hein, qui parlent de la comté, je dis c'est super chiant. Enfin, moi, je trouvais ça chiant, en fait, donc je passais ultra vite et puis. J'attendais de l'action, de la baston, voilà, parce que bon, voilà, donc je me dis, bon, quand est-ce que ça tape, quoi, donc, et en fait, en relisant le Seigneur, je l'ai relu plusieurs fois, et là, j'ai relu encore une fois pour préparer le bouquin, et vraiment, les trois premiers chapitres hein, que Tolkien consacre à la comté, qui, en termes d'action, ne servent à rien, en fait, voilà, même, hein, mais comme tu dis, c'est une espèce de longue description, et qui parfois, avec des trucs, il y a un chapitre qui est consacré quand même à l'herbe à pipe, en fait, hein, on se dit, mais pourquoi, en fait, donc, et sauf qu'en fait, Tolkien décrit son utopie, décrit son utopie, il pose l'utopie, voilà, comme ça, il dit, voilà, ça c'est mon utopie, donc c'est un pays rural, où il n'y a pas de technologie, où en fait, il n'y a quasiment pas de politique, en fait, voilà. Donc,
thème du don, c'est le
voilà.
potlatch, et c'est
ouais.
très capitaliste, en fait, ouais.
Ouais, voilà, ou même, enfin, ouais, il y a une espèce de démocratie paysanne, villageoise et tout, communautaire et tout. Donc, Maurice était limite proche, enfin, il était proche des libertaires, mais limite, parfois, quand on regarde les descriptions de Tolkien, alors évidemment, c'est quasiment anarchiste, hein, mais presque de droite, en fait, j'ai envie de dire, mais c'est un art, mais au sens, concrètement, il n'y a pas de pouvoir, en fait, voilà. Dans la comté, il y a un type qui est élu, mais en fait, au moment, quand Tolkien parle du shérif, hein, donc le type qui est élu pour. Tolkien dit, mais en fait, concrètement, sa seule occupation, c'est des histoires de barrières mal placées, voilà. Donc, il y a un truc, c'est. Voilà, Tolkien pose son utopie, là, en fait, hein, et puis, qui est une utopie, en fait, même pas médiévale, en fait, hein, c'est l'Angleterre 18e, 19e siècle, en fait, hein, l'Angleterre rurale. Qui était détruite par des enclosures en fait voilà donc voilà et par l'industrialisation donc et puis après après l'action commence quoi là il y a l'anneau qui arrive en fait hein, la découverte de l'anneau en fait hein, qui appartenait à Bilbo et puis bah, petit à petit en fait hein, voilà les hobbits vont être projetés dans un monde en fait hein, qui voilà donc un monde médiéval en fait hein, qui tente de survivre en fait à une agression hein, l'agression de Sauron qui est en fait une agression industrielle en fait quand on lit bien les descriptions des orques de Sauron c'est l'industrie en fait voilà donc,
L'idée un peu de la créature artificielle à un moment donné dans tout son bestiaire, il y a cette idée qu'il y a comme des catégories qui auraient été plus ou moins.
Bah, l'orque, ouais. L'orque, ouais, c'est ça. L'orque, c'est exactement ça. L'orque, c'est quelque part, en fait, hein, si on compare, c'est une créature de Frankenstein, en fait, l'orque. C'est d'ailleurs, Tolkien va même insister pour dire que l'orque n'est pas créé, en fait, hein, il va expliquer, l'orque n'est pas créé par un souffle divin, en fait, hein, comme les elfes, les humains, voilà, mais a été créé hein, par un type, par un mortel, en fait, voilà, un type qui a perverti la création. Donc,
Il m'a un peu raté l'occasion parce que l'idée était très bonne et moi aussi ça m'avait frappé en lisant le livre de Garth, l'idée qu'au fond c'est les masques à gaz et tout ça qui ont, c'est cet imaginaire. D'ailleurs tu l'associes, je pense que c'est avec Garth, tu l'associes à Max Ernst.
Ah,
Donc,
c'est Garth hein, qui a fait cette très bonne, ce très bon parallèle avec Max Ernst, en effet.
Célèbre de 1921, et c'est vrai que c'est très curieux parce qu'au même moment où des artistes comme Gross sont en train de faire de l'hyper-réalisme des tranchées en montrant bah, les éviscérations, les gazages, etc. Et où des gens comme Céline vont faire la description de la boucherie héroïque et tout ça. Mais en même temps, ça donne lieu, au contraire, à ces sortes de transfigurations, que ce soit du côté du surréalisme, que ce soit du côté de la fantasy. Et c'est très curieux parce qu'on voit que là encore, c'est un nouveau traumatisme et que on est dans le trauma, et c'est très curieux parce qu'avec Tolkien, on est dans le double trauma de son enfance, de la perte un peu c'est toujours cet univers pastoral, bucolique, qui est un peu le paradis perdu, et puis l'arrivée à l'âge d'homme, où c'est tous ses amis qui se font massacrer, et c'est lui qui est convalescent, et donc c'est l'idée qu'au fond, l'Angleterre, elle a été deux fois dévastée quelque part, et c'est pour ça qu'il va être, comme tu le signales, très, très sceptique aussi par rapport à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, tu as une analyse aussi très intéressante de la fin du Seigneur des Anneaux, donc le nettoyage du comté.
Ouais, parce que là, c'est intéressant parce que à la fin, ce qui n'est pas présent dans les films, enfin, c'est présent par allusion dans les films hein, de Peter Jackson, c'est l'avant-dernier chapitre, en fait, hein, où en fait, les quatre hobbits, hein, donc Frodon, Sam, Merry et Pippin, en fait, hein, rentrent après avoir détruit l'anneau et tout, voilà, ils rentrent dans leur pays, dans la comté. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que bon, on se dit bon bah voilà, c'est bon, l'anneau est terminé, là c'est terminé, voilà, bon l'action du roman est terminée. Et là, Tolkien fait non non en fait, hein. Et donc il nous replonge dans la comté, sauf que la comté a été attaquée et occupée par des types. Hein, alors c'est en fait, on s'apprend que c'est Saruman en fait qui après avoir été banni a pris un pseudo, voilà, puis a mis des pierres avec lui. Et donc Saruman a transformé la comté dans une espèce d'horreur industrielle. Enfin, c'est voilà. Et puis il oblige tout le monde à bosser hein, et tout le monde est surveillé. Alors que c'est un peu un côté totalitaire. Et puis un de ses surnoms, c'est frappant, hein, c'est The Boss, c'est le patron, quoi. Et ça, c'est quand même, c'est bon. Évidemment, ça va bien se terminer en fait, hein, parce que les hobbits vont chasser Saruman et ses sbires. Mais quand même, on voit chez Tolkien, il y a une idée qu'en fait, malgré tout, cette utopie, elle a été souillée en fait, voilà. ce qu'il n'y a pas ce qu'il y a pas dans le film, en fait. Hein, voilà, la comté, on la retrouve bucolique, hein, comme avant, quoi. Non, non, là, par contre, l'utopie, elle a été souillée, en fait. Hein, donc, souillée par la modernité, souillée par la guerre, hein, voilà, donc, souillée partout, quoi, donc. Et donc, Tolkien, pour lui, là, alors que c'est là où on voit qu'il y a une différence majeure avec Morris. Morris, pour lui, dit il y a une solution politique. Voilà. La solution, elle est concrète, elle est politique. Chez Tolkien, il n'y a pas de solution politique, en fait. C'est pour ça
Oui,
que Tolkien
surtout,
dit.
oui, tu cites les deux lettres très intéressantes à son fils Christopher qui se bat au front, à la RAF, si je ne me trompe.
Ouais, il était dans
Et
la RAF, ouais.
en fait, où il a déjà une vision extrêmement pessimiste parce qu'il dit, au fond, ce n'est pas juste Hitler le problème, ni à la rigueur Staline et Hitler, c'est l'âge des machines. C'est très curieux parce qu'il y a peu de gens à ce moment-là, bah, il y avait eu Heidegger, qui va d'ailleurs être plus axé sur la question de la technique juste à ce moment-là, dans l'immédiate après-guerre. Il va y avoir Anders avec l'obsolescence de l'homme, etc. Mais au fond, Tolkien est déjà comme en train de regarder le prochain épisode, en fait.
Ah
Il est
bah
encore au
c'est
cœur de la guerre et lui, il n'est pas du tout embarqué par une sorte de triomphalisme allié contre le.
ah
Contre
non non
l'ennemi, etc. Il dit, au fond, quoi qu'il arrive, nous allons perdre face aux machines. Et ça, c'est vraiment très, très, très particulier parce qu'on voit comment c'est un imaginaire qui s'est déployé depuis le début de l'industrialisation avec Blake, etc. Et comment il se déroule et il trouve différentes modalités. Et ensuite, comme tu le signales, bah, ce qui est très curieux, c'est que ça va permettre une récupération. Qui est un peu inédite et qui a un peu surpris Tolkien lui-même, c'est la récupération par les hippies et par les jeunes contestataires des années 60, en plein milieu
Ouais.
des Trente Glorieuses, du développement, etc., etc. Et là, c'est carrément un autre contexte, mais pour dire un peu aussi cette sorte de nostalgie face à la modernité.
Ouais, bah c'est ça, c'est enfin Le Seigneur des Anneaux, donc le roman sort en 54-55, en fait, alors, donc c'est un carton immédiat et tout, donc il traverse vite l'Atlantique, il est publié aux États-Unis. Et puis, c'est là, en fait, hein, c'est aux États-Unis notamment, hein, que ça devient une espèce de littérature, enfin, pas qu'aux États-Unis, mais d'abord aux États-Unis, ça devient une espèce de littérature de chevet pour toute cette génération contestataire, d'autant plus qu'aux États-Unis, au milieu des années 60, c'est le Vietnam, en fait. Et là, pour le coup, là, on va dire, c'est un troisième trauma qui s'ajoute, quoi, en fait, hein, quelque part, pour reprendre ce que tu dis, quoi. Et puis, le Vietnam, c'est la guerre industrielle plus, quoi, en fait. Hein. Et ce côté, en plus, il y a vraiment l'idée que c'est un peuple. Alors, bon, même si c'est une imagerie, en fait. Hein, donc, mais il y a l'idée que c'est un peuple désarmé, voilà, donc qui se fait attaquer par la première puissance économique et militaire mondiale, quoi. Donc, avec les bombardements massifs, avec l'agent Orange et tout. Donc, ça va très loin, quoi. Donc, oui, c'est l'image même que projettent les hobbits, en fait, hein, qui sont en plus décrits par Tolkien comme un peuple pacifique et tout, donc qui n'a pas d'armée et tout, donc eh ben, évidemment, ça plaît à tout le monde. Et puis il y a vraiment cette espèce de réaction, hein, et ça, c'est aussi l'autre contexte, en fait, hein, c'est que dans cette réaction à la guerre du Vietnam, mais aussi dans la réaction, en fait, hein, de cette génération qui n'est pas dans le triomphalisme de leurs parents, en fait, vis-à-vis de la victoire contre le nazisme et tout, donc toute cette génération des années 60 qui dit bon, vous êtes gentil, mais avec les Trente Glorieuses et tout, c'est formidable et tout, sauf qu'en fait, on n'a pas envie de cette vie-là, elle est aliénante et tout, hein, cette consommation, on n'en veut pas. Et donc, quelque part, il y a cette espèce aussi, au même moment, de nouvelles poussées de médiévalisme, en fait. Hein. Donc, la première poussée pour moi, c'est clairement le début du 19e siècle, hein, donc même si ça a commencé un peu plus tôt en Angleterre. Et puis là, il y a vraiment une seconde poussée dans laquelle on est encore aujourd'hui, en fait. Hein. On est toujours dans le même élan, en fait, hein, de réaction vis-à-vis de la société de consommation. Ça veut dire qu'en fait, le succès de Tolkien va s'inclure dans une espèce de fascination généralisée pour le Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge complètement fantasmé, en fait, encore une fois. Hein. Ce n'est pas le vrai Moyen-Âge qui attire. C'est le Moyen-Âge des magiciens, c'est le Moyen-Âge des sorciers, c'est le Moyen-Âge des druides. Alors en plus, associer Moyen-Âge et druides, ça n'a rien à voir, en fait, hein, historiquement. Mais hein, bah là, concrètement, on va associer les deux parce que voilà, en plus le druide, on le représente comme un type proche de la nature et tout, une espèce de Babacool avant l'heure, ce qui n'était pas le cas et tout. Voilà. Donc il va y avoir plein de groupes, hein, notamment de pop, hein, qui vont faire des chansons sur le Moyen-Âge, hein, et aussi les chansons sur Tolkien. Hein, les plus connues, évidemment, c'est Led Zeppelin. Hein, Led Zeppelin qui, je crois, c'est dès Led Zeppelin 2 ou dès Led Zeppelin 3 qui vont faire, donc en 69-70, qui vont faire des chansons Bon, c'est Led Zeppelin 2, Rambolone. Ouais, Rambolone, c'est Led Zeppelin 2. Donc, il y a une chanson avec des allusions très claires, en fait, hein, même explicites à Tolkien. À tout, donc,
Tu compares d'ailleurs à un moment donné, ce qui est très intéressant et ça mériterait d'être approfondi, c'est les Schtroumpfs, puisque par rapport à la date de parution donc initiale du Seigneur des Anneaux, les Schtroumpfs arrivent en 58, 4 ans plus tard. Et c'est vrai qu'avec les Schtroumpfs, c'est vraiment très intéressant, puisqu'au début, c'est tout simplement une sorte de offshoot
Jean et Pierre-Louis, ouais, bien
merveilleux
sûr.
de Jean et Pierre-Louis, qui était déjà un médiévalisme tout à fait, disons, qui mélangeait constamment le surnaturel et les référents plus ou moins historicisés. Et donc, c'est très curieux comment Jean et Pierre-Louis ont un succès modeste, mais leur transformation en histoire carrément fantasy avec les Schtroumpfs, ça devient vraiment un phénomène. Et c'est vrai
Bah,
que…
tu peux faire le même parallèle avec Astérix, hein.
Oui,
Astérix,
avec Astérix, c'est l'imaginaire gaulois, romain, tout ça aussi. Tu le signales que c'est aussi la communauté champêtre. Mais pour le côté médiévaliste et tout ça, je pense qu'effectivement, avec Peyo, il y a un truc tout à fait intéressant à voir. D'ailleurs, je…
tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais en fait, en fin de compte, enfin voilà, il y a quand même, que ce soit chez Astérix, chez les Schtroumpfs, il y a l'idée, voilà, c'est pré-moderne. Voilà. À chaque fois, c'est non moderne, anti-moderne, je ne sais pas quel soit le terme qu'on veut appliquer à ça, c'est pré-moderne. Donc voilà. Comme tu dis, en fait, ça apparaît en 59, alors on est en pleine Trente Glorieuse et tout. Alors au début, c'est pareil, les Schtroumpfs et Astérix, ce n'est pas explicitement vu comme ça, ce n'est pas pensé comme ça, mais c'est vraiment à partir du milieu des années 60 que les deux franchises, hein, enfin, soit les Schtroumpfs ou Astérix, commencent à développer cette espèce de discours. Voilà, on est des créatures magiques, on vit à l'écart et tout. Donc c'est encore plus clair. Je pense que le passage est encore plus clair pour Astérix, hein, parce qu'au début, clairement, les Romains, c'est les Allemands. Enfin, c'est des occupants allemands. Et à partir des années 60, fin des années 60, les Romains, c'est le monde moderne. Ça a changé. Hein. Donc voilà. Donc il y a notamment avec des albums comme Le Domaine des Dieux, en fait, hein, qui est pour moi un des meilleurs albums d'Astérix, hein, qui en plus se finit pas très bien, en fait. Hein. Donc si on lit la dernière case, hein, la dernière case, en fait, hein, Astérix et ses compagnons ont viré, hein, les Romains qui voulaient installer une espèce de gigantesque complexe hôtelier autour du village. Ils les ont virés. Et puis Astérix commence à la fin, dernière page. Hein, Astérix dit à Panoramix, mais est-ce qu'on gagnera toujours contre ces gens-là? Et Panoramix fait non, 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 mais on ne gagnera pas toujours, en fait. Hein, mais tu sais, ils gagneront dans très longtemps, en fait. Voilà, donc, et on a encore le
D'ailleurs,
temps,
je me
quoi.
rappelle qu'il y avait un fanzine des années 80 qui avait repris, donc c'était une édition totalement pirate, mais Astérix et Obélix contre les centrales nucléaires. Donc
Alors, j'ai repéré ça, c'est 78, et je crois me souvenir que c'est originaire d'Allemagne. C'est originaire d'Allemagne et ça a été repris en pas mal de langues, en fait, hein, donc en français, en espagnol, je ne sais pas si c'est le cas en anglais. Et en plus, d'ailleurs, ils reprennent beaucoup de cases, justement, de cet album, de cet album d'Astérix, donc Le Domaine des Dieux. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, hein, ça permet de remonter, enfin, de faire la transition, c'est que le mouvement anti-nucléaire va beaucoup utiliser, hein, là on le voit avec Astérix, ils utilisent beaucoup de trucs de fantasy, hein, c'est assez content d'être tombé dessus, en fait, hein, donc j'ai mis dans le bouquin un passage d'un des fondateurs de Greenpeace qui dans ses mémoires, quand il écrit ça, enfin il écrit pas ses mémoires en 78, il écrit une espèce de compte-rendu de lutte, hein, en 78, il parle des campagnes qu'il menait en 73 contre les essais nucléaires français dans le Pacifique, et il dit, je cite de tête, hein, il dit, j'avais l'impression d'entrer dans le Mordor et d'être confronté à Sauron, quoi. Donc voilà, c'est quand même, voilà, et on est en 78, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, cette référence tolkienienne, écolo et tout, elle est là, en fait, hein. Donc le mouvement écolo va, il y a aussi le mouvement anti-nucléaire britannique, hein, qui est très puissant dans les années 70, fin des années 70-80. C'est des gens qui vont parler de Tolkien, qui vont faire des clins d'œil à Tolkien, hein, donc.
Et David, tu cites David MacTaggart en 72, alors qu'il se rend dans le Pacifique pour bloquer
Ouais,
les
c'est ça, voilà. David
Français.
Nattagas, ouais.
Ah,
Voilà,
voilà. Oui, donc, non, tout à fait une très belle citation, très intéressante. Tu signales aussi un truc très intéressant, c'est comment il y a un passage assez significatif à l'intérieur de la fantasy du passé médiévalisant, bien qu'on ne sache jamais exactement où, puisqu'on est un peu dans des territoires un peu uchroniques avec Tolkien, par exemple. Mais on passe à un futur plutôt post-apocalyptique, donc avec une série d'œuvres et qu'il est très intéressant de mettre en rapport comme tu le fais. Donc, le cycle de Shannara qui commence en 77 de Terry Brooks, le film de Bakshi qui a adapté aussi Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs dans un super beau film, mais dont il n'a pas eu la suite malheureusement. C'est vraiment une des premières grandes adaptations de cet imaginaire et de cette iconographie. Et il fait Les Sorciers de la Guerre, qui, comme tu le signales, est tout à fait placé dans un monde post-apocalyptique où la magie fait retour. Et enfin, en 82, Miyazaki avec Nausicaa. Et c'est très intéressant de les mettre en rapport, effectivement, parce que on voit bien qu'il y a là un tournant autour de la fantasy. Et tu évoques aussi, ce serait aussi un sujet pour une émission complète, la question de la guerre des étoiles et son rapport avec la fantasy, puisque
ouais,
on a
ça
parlé de
c'est.
space opera, on a parlé de space fantasy, mais au fond, il y a aussi tout simplement le legs de la high fantasy. Donc,
Ouais, mais c'est vrai que ça, alors, justement, pour le truc, enfin, justement, le fait de placer la fantasy. Parce que Tolkien, par exemple, Tolkien comme Howard, hein, en fait, on pourra parler aussi de Howard rapidement,
Oui, ça
mais.
c'est intéressant. Tu l'as mis en annexe, mais on va en parler, oui. Oui.
Ouais, parce que, enfin voilà, c'est les gens qui plaçaient donc leur monde de fantasy ou leur chronique de fantasy dans une espèce de préhistoire, en fait. Voilà, donc Tolkien, c'est clair, Howard aussi. Donc, et puis, là, à partir des années 70-80, il y a cette idée que, en fait, la fantasy, c'est dans le futur. Et j'utilise plutôt des outils d'historien, quoi, en fait, parce que. Il y a pas mal de débats aujourd'hui sur justement ce qu'on appelle le régime d'historicité, donc en gros le rapport au temps, voilà, puisque chaque société n'a pas le même rapport au temps, tout bêtement, donc hein, ça semble être une évidence comme ça, mais en fait ça a des implications absolument énormes. Et disons qu'à partir, notamment il y a un historien qui a travaillé dessus qui s'appelle François Hartog, hein, il dit bien qu'en fait à partir de la fin du 18e siècle jusque dans les années 60, on est dans un rapport au temps, alors il n'a pas employé le problème. Pas ce terme-là, en fait, hein, mais moi je l'emploie, en fait, hein, je trouve que c'est assez clair. Un rapport au temps futuriste. En fait, on met un espoir dans le futur va forcément amener un mieux, hein, donc un mieux technologique, social, politique et tout. Et ça, c'est vraiment la mythologie des super-héros, en fait. Alors là, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Voilà, Superman, Captain America, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et là, en fait, pour le coup, avec ces œuvres de fantasy-là, hein, qui projette des mondes, une espèce de retour en arrière dans le futur, mais un retour en arrière positif, en fait, voilà. On est dans un changement complètement, enfin, on est dans un changement total de paradigme, en fait, hein, par rapport au régime d'historicité, quoi. Donc voilà, le futur sera meilleur parce qu'on va retrouver de la magie, de la nature, des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Donc évidemment, les auteurs ne pensent pas que les elfes vont réapparaître, mais derrière ça, il y a l'idée que, eh bien, concrètement, il y a une espèce de critique, en fait, hein, du discours futuriste et moderniste en disant, bon, bah, voilà, en fait, la technologie, ça mène pas forcément à mieux, quoi. Donc voilà, il faut, si on veut créer, avoir un futur viable, il faut penser autre chose, quoi. Et ça, évidemment, ça va de pair avec le développement du discours écolo, enfin, avec l'écologie, voire la deep écologie, voire hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le discours décroissant et tout. Donc voilà, il y a quand même la fantaisie. Alors après, c'est intéressant parce que la fantaisie, elle dit des choses, elle touche un public énorme, en fait, hein. Tu parles d'œuvres des années 70, hein. À l'époque, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse vraiment à l'écologie, en fait, hein. L'écologie ne fait pas. Voilà, aujourd'hui, l'écologie politique est quand même très présente dans le champ politique. À l'époque, c'est pas présent, en fait, hein. Par contre, la fantasy va développer des discours comme ça et toucher, enfin, et dans des œuvres, en fait, qui sont des œuvres de masse, en fait, hein. Terry Brooks, ça a été lu par des millions de lecteurs, quoi. Donc c'est intéressant de voir ça, en fait, que la fantasy, quelque part, un ou deux wagons d'avance, hein, sur l'écologie, mais en termes de pas en termes de réflexion pure, quoi, mais en termes d'influence, quoi, en fait, hein. Donc, et
Oui,
ça accompagne cette prise de
la
conscience.
nouvelle alliance, c'est-à-dire que c'est les lecteurs un peu hippies, un peu New Age,
Ouais.
etc., qui se réapproprient Tolkien et qui, quand ils se mettent à faire de la fantasy, ils vont. C'est les années Wicca, c'est les années
Ouais, tout à
le
fait. Oui, il y a ça.
paganisme, tout ça, rock celtique. Enfin bon, il y aurait vraiment quelque chose de très intéressant. C'est vraiment un creuset essentiel. Et d'ailleurs, dans le livre, une fois que tu finis le panorama, tu fais une série de bonus qui sont comme des annexes très intéressants. Et notamment, tu t'intéresses à deux phénomènes qui sont importants des années 70. Un, c'est Dungeons and Dragons et la création, donc la projection et la réinvention peut-être, parce que finalement, après Dungeons and Dragons, la plupart des gens, pour toutes les générations d'après, j'imagine la tienne, enfin nous, tout ça, la fantasy va beaucoup commencer soit par le jeu de rôle, soit accompagner
Bien
le jeu de
sûr.
rôle. On joue au jeu de rôle. Et donc ça va être comme un changement très intéressant de paradigme dont tu évoques la naissance, et c'est très intéressant de replonger là-dedans. Et puis de l'autre, c'est la redécouverte de Conan, parce que Conan, effectivement, avait été important dans les années 30 dans le monde des pulps, puisque c'est un des personnages les plus bien aimés de Weird Tales par les lecteurs. Mais au fond, de par le suicide de Howard et tout ça, Conan va connaître un peu une sorte d'éclipse. Les pulps eux-mêmes aussi, puis la plupart des grands héros de pulps aussi vont disparaître. Mais Conan va être vraiment refondé par les comic books, John Buscema, etc., etc., et par les rééditions, et puis les adaptations au cinéma, tout ça, mais aussi les continuations. Donc, au fond, dans les années 70, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a d'un côté tout ce truc tolkienesque que tu évoquais, tout ce truc howardien, Conan, qui pourrait sembler presque comme aux antipodes, parce que quelque part... L'heroic fantasy, le sword and sorcery, a toujours été considéré comme quelque chose de très, très... Norman Spionrad en fait une sorte d'image du fascisme.
Oui, tout à fait, dans Rêve de fer, oui, tout à fait.
C'est un peu l'image que les gens qui tripent sur les barbares ultra musclés, tout ça, c'est un peu des fachos. Au moment où les fascistes sont d'ailleurs très, très, très impliqués dans l'écologie, parce que ça, c'est aussi... Un truc intéressant, c'est que le discours écologique, ce n'est pas du tout un côté bon enfant, etc., etc. Les nazis étaient très écolos et les néo-nazis l'ont été encore plus. Donc, c'est très curieux parce qu'autour des années 70, il y a tout ça. Et je dirais que la fantasy, plus les jeux de rôle, donc je dirais que la fantasy, elle se réinvente dans les années 70 et qu'elle prend plein de formes. Étranges, hybrides, et qui vont marquer la suite des événements, mais qui, au fond, politiquement, sont une sorte de champ de bataille, parce que tu as des gens qui s'y intéressent, qui sont dans l'apologie de la violence. Y a le truc là qui est à la croisée entre un peu science-fiction et fantasy, le truc de les mondes de Gore, par exemple, qui est une sorte de rêverie sadomaso sur la hiérarchie totale, domination des femmes, tout ça. Après, tu as ceux qui font un peu à la Ursula Le Guin, tout ça, des trucs beaucoup plus contestataires.
Oui, honnêtement, oui. Ouais.
Féministes, tout ça, tout ça. Et donc, c'est très curieux parce qu'on dirait que là, les débats politiques se transfèrent très radicalement dans la fantasy.
Oui, alors c'est... Pour le dire, alors il y a plein de choses parce qu'en fait, bon, déjà c'est vrai que Conan, bon après sur Conan the Ward, enfin voilà, il y a plein de choses à dire. Quand il a été redécouvert dans les années 60, c'est vraiment grâce au dessin de Frazetta en fait. Hein. Frazetta faisait d'ailleurs couverture des rééditions chez Lancer Books à partir de 66. Et bon, alors, le dessin de Frazetta étant absolument géniaux, voilà, ils sortent de la page et tout, ça donnait une image de Conan hyper musclé, hyper viril, hyper viriliste quelque part. Donc c'est, et puis on est en pleine seconde vague de féminisme et donc quelque part Conan, ça devient une espèce de réaction à ça. Donc voilà, donc ça le succès de Conan s'explique aussi en grande partie par ça pour moi. Mais néanmoins, là où c'est intéressant, c'est de voir que Howard, c'est un peu comme Tolkien ou c'est un peu comme Morris. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais quand il commence à écrire Conan, il réagit aussi à une destruction du paysage. Il y a son Texas natal, en fait, il est né en 1906, son Texas natal, qui est en train de se couvrir de champs de pétrole. Et il a commencé, il dit, moi, je ne veux pas bosser là-dedans, c'est hors de question. Quoi. Donc, il y a cette idée-là, en fait. C'est intéressant, c'est de voir que dans la fantasy, quelque part, il y a une espèce de continuum, en fait, de fil rouge, où on a à chaque auteur ou autrice importante une espèce de rejet, de critique de la modernité. Alors après, les conclusions ne sont pas toujours les mêmes, en fait. Voilà, donc, Howard, il ne va pas dire la même chose que Tolkien, parce que pour Howard, il a une vision très pessimiste et dit, de toute façon, l'homme finira toujours pour retourner dans la barbarie. Et puis voilà, quoi, donc, il y a une vision très racialiste aussi chez Howard et tout. Voilà, donc, c'est, pour ne pas dire raciste, en fait, parce que c'est un Texan des années 30, en fait. Hein, donc, voilà, un Texan blanc des années 30. Voilà, donc, malgré tout, en fait, voilà, il y a quand même cette espèce de fil rouge, en fait, qu'on retrouve chez plein d'auteurs et d'autrices avec cette espèce de critique, en fait, du monde moderne, de la violence moderne. Même par là, je suis en train de relire Moorcock. Hein, donc, Moorcock, c'est pareil. Hein, bon, Moorcock, en plus, il est clairement, il est libertaire et tout. Voilà, donc, c'est clairement un type qui est très, très contestataire. Hein, tout cas. Mais Moorcock, quand on lit ses romans sur Elric ou sur Hawkmoon, à chaque fois, les grands méchants, c'est des types qui habitent dans une île, en fait, qui sont dans une espèce d'île hyper développée technologiquement. Quoi, donc, ou pas technologiquement, mais en tout cas, voilà, avec la sorcellerie hyper complexe, quoi, que ce soit chez les Mêlés Libonéens, dans Elric ou les Grands Bretons chez dans Moon. Bon, bah, c'est une critique de l'Angleterre industrielle, quoi, en fait, voilà, et coloniale, quoi, donc merci. Enfin, donc, c'est, on a ça, en fait, hein, donc, on a à chaque fois cette espèce de fil rouge. Voilà, et donc, en effet, évidemment, dans le bouillonnement politique et culturel des années 70, cette fantaisie très politique va être le sujet de plein de volontés, de, voilà, d'appropriation. Il va y avoir l'extrême droite qui va tenter, notamment en Italie, hein, qui va créer ce qu'ils appelaient des campo hobbits, hein, donc des camps hobbits, en fait. Hein, donc, vraiment, c'est l'ultra-droite hein, qui faisait ça, en fait. Hein, donc, où d'ailleurs aujourd'hui certains cadres de l'extrême droite en fait italienne ont fait leurs premières armes là-dedans donc voilà donc et puis il va y avoir aussi comme de l'autre côté du spectre chez les antinucléaires anglais ou allemands qui sont pour le coup très à gauche hein, il va y avoir aussi cet usage de la fantaisie donc avec encore une fois deux critiques de la modernité, hein, mais avec des conclusions différentes, en fait. Hein, mais c'est avec à chaque fois cette espèce d'usage de la fantaisie. Au même moment, par exemple, tu vas avoir 1976, il va y avoir le centenaire du Ring donc, de Wagner, hein, qui va être mis en scène par Patrice Chéreau, en fait, hein, donc, mis en musique par Pierre Boulez à Bayreuth. Et avec Patrice Chéreau, va choisir de représenter les dieux hein, du Valhalla. Comme des espèces de grands bourgeois, de grands maîtres de forge du XIXe siècle, en fait. Donc, la fantaisie, elle participe de tout ça, quoi, en fait. Donc, elle participe de cette espèce d'expression, en fait, hein, de cette crainte ou de cette critique, en fait, hein, des dérives de la modernité, quoi. Donc, et donc, ça va se retrouver après, notamment dans Game of Thrones, en fait, hein, par
Oui,
exemple, avec.
c'est ça, c'est parce que Martin, il commence justement un peu à la fin de ce cycle que tu évoquais. Il écrit, par exemple, un texte très intéressant que tu évoques. Il écrit juste un an après Nausicaa de Miyazaki, c'est Armageddon Rag, où il y a, comme tu le dis, une repolitisation totalement assumée, assez lucide, assez critique aussi envers ce que t'es devenu la fantasy très vite. Puisqu'en fait aussi, l'autre aspect, c'est que la fantasy devient un outil de consommation de masse majeure. C'est-à-dire on est au début des blockbusters. Si la fantasy n'a pas eu l'équivalent exactement de Star Wars pour le space opera, il reste que plusieurs œuvres ont essayé pendant cette époque-là. Et que.
Willow, par exemple, Willow qui
Oui,
est
c'est
produit
ça.
par Lucas et tout,
Oui,
voilà, donc
oui, oui.
oui, bien sûr. Ouais.
Et donc, il y a la volonté de transformer les gens de l'imaginaire en immenses vaches à lait, donc des centaines de maisons d'édition qui commencent à carburer là-dessus. Puis surtout aussi les immenses séries à 10, 15 romans, à répétition, et puis tout le monde très dérivatif de Tolkien. Ça commence un peu avec Terry Brooks quand même, qui est très dérivatif. Et donc, Martin est un peu. Est en réaction contre ces doubles aspects, contre l'aspect de la consommation de masse de ses œuvres, ironiquement, puisqu'il va devenir, lui, le plus grand blockbuster, justement,
Ouais, bien sûr.
des années plus tard, mais il est aussi contre ce qu'il appelle un Moyen-Âge de Disneyland, comme tu le dis, et il va vouloir réintroduire, pour le coup, la complexité d'un certain Moyen-Âge historique, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui va le plus marquer, ce qu'on peut résumer Game of Thrones, c'est la rencontre entre Tolkien et les rois maudits de Druon, dont il a toujours revendiqué l'héritage. Et donc, les rois maudits, cette grande saga du feuilleton historique français qui raconte justement toutes les vilenies, les trahisons, les coups tordus pour l'accession au pouvoir, la conservation du pouvoir, etc. Et donc, c'est finalement, c'est de ça aussi dont la fantasy avait besoin, c'est à un moment donné de laisser soit le côté Howard et les milliers de simili-barbares, soit le côté Tolkien et les milliers de simili-elfes, et trouver quelque chose d'un peu différent.
Différent, mais et en même temps, c'est là où c'est frappant, c'est qu'en fait, ben, Martin va être rattrapé malgré lui, quoi, en fait, parce que toute l'histoire, alors c'est plutôt la série télé qui va faire ça, mais l'histoire avec l'arc narratif avec les marcheurs blancs qui viennent détruire, en fait, qui viennent amener l'hiver et tout, et puis en fait, on s'aperçoit que c'est parce que c'est les premiers hommes, c'est à cause des premiers hommes hein, qui ont été créés et tout. Bon, bah là, c'est clairement une allusion, en fait, c'est clairement une allusion aux craintes par rapport au réchauffement climatique. Donc, tu vas avoir, t'as un retour du refoulé qui arrive après. Genre, bon, voilà, bah, en fait, c'est assez marrant, quoi. Donc, c'est qu'en fait, Martin, il voulait repolitiser la fantasy. Je vais créer une œuvre où on va parler des rapports de pouvoir, des choses comme ça et tout, pour parler politique. Et en fait, il a été dépassé dans cette danse-là, en fait, parce que les gens, ils ont eux-mêmes politisé et politisé cette œuvre-là. Parce que Martine, au début, quand il crée Les Marcheurs Blancs, il a aucune. Enfin, il écrit au début des années 90, il n'a pas envie de parler. Enfin, il pense pas au réchauffement climatique. Mais quand la série sort, en 2010, tout le monde pense à ça, quoi. Tout le monde, enfin, plein de gens font le parallèle. Et donc, la série devient une espèce de symbole politique, en fait, hein, qui va être utilisé notamment par des mouvements écolos comme Greenpeace, en fait. Hein, donc, voilà. Donc, c'est assez frappant de voir ça, en fait, hein, cette espèce de porosité, hein, de la fantasy à ces discours, en fait, hein, ces discours de critique, de la modernité, quoi. Donc, encore une fois. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est assez marrant. Et puis, en fin de compte, quand on creuse, même si c'est là où c'est frappant, c'est qu'il y a une ambiguïté qui est majeure dans la fantasy. Comme chez les super-héros, en fait, hein, c'est que c'est devenu, pour le coup, un genre de masse, en fait, voilà. Donc, très nettement, en fait, hein, la plupart des grandes franchises de cinéma aujourd'hui, à part le MCU, donc Marvel et tout, donc c'est des franchises de fantasy. Hein, donc, et ben, le truc, c'est que c'est pareil dans la littérature, c'est pareil, enfin, dans les séries télé, enfin, dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle et tout, voilà. Donc, il y a de la fantasy vraiment partout, en fait. Hein, donc, et le truc, c'est que c'est un truc de masse. C'est vraiment, on est dans une culture de masse. Culture très industrialisée, en fait, hein, là, qui, voilà. Et en même temps, dans cette culture de masse, il y a au cœur de cette culture, au cœur du discours, même dans des franchises très, très commerciales et tout, il y a cette critique du monde moderne, cette espèce de peur, en fait, du monde moderne et ce besoin de se plonger dans un ailleurs qui est un ailleurs médiévalisant, pour simplifier, quoi. Donc, et c'est un paradoxe qui est assez frappant, quoi. Donc,
Oui, je
voilà.
pense que c'est ce que Compagnon a fait pour les antimodernes, quand il dit qu'au fond, les antimodernes, c'est des modernes. C'est-à-dire, ce n'est pas, bon, premièrement parce qu'on n'échappe pas à la modernité, mais aussi parce que les antimodernes sont ceux qui ont compris la modernité. Et souvent, c'est eux qui sont les plus sensibles. Bon, le cas de Baudelaire étant le plus évident, puisque c'est lui qui est un peu celui qui introduit le terme dans son tel qu'on l'utilise. Et au fond, c'est très curieux, parce que je pense que la fantasy est un genre qui se débat tout à fait avec cette sensibilité antimoderne, mais qui fait partie de la modernité. Donc, en fait, la modernité, on ne peut pas juste penser que la modernité, c'est la pensée moderniste de la modernité. Dans la modernité, il y a l'antimodernité et
Ouais,
il
bien sûr, tout à
y a.
fait. Ouais.
Ça
Ouais,
a
c'est exact.
créé.
La fantaisie est fille de la modernité, quoi. Il y a pas, voilà, c'est pas, on faisait pas de fantaisie au Moyen Âge, quoi. Il y a pas besoin, quoi. Donc, surtout qu'on, enfin, voilà, on parlait de dragons, les gens ils y croyaient, ils disaient, oui, ça a existé ou ça peut exister très loin, quoi. Donc, on sait pertinemment aujourd'hui qu'un dragon, ça n'existe pas, ou alors à moins d'avoir beaucoup bu, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Mais bon, mais voilà. Donc, c'est, non, ouais, bien sûr, la fantaisie c'est un genre moderne, en fait. Mais c'est intéressant parce que ça exprime des choses, c'est à travers des mondes imaginaires, des ailleurs, ça exprime en fait des choses qui parlent avant tout et quasi exclusivement de nous, en fait, voilà, de notre modernité. Voilà.
Oui, c'est comme ça que tu commençais. Et d'ailleurs, tu commençais aussi par une citation tout à fait intéressante de cette projection constante du contemporain sur ces mondes-là. Donc, c'est Daenerys Targaryen. Nos pères étaient des hommes malfaisants. Ils ont laissé le monde dans un état pire que celui dans lequel ils l'avaient trouvé, mais pas nous. Nous laisserons un monde meilleur. C'est tout à fait le côté woke contre les baby boomers, etc. Enfin, c'est un discours qu'on.
En sachant plus que j'ai mis voilà, cette citation, en fait, c'est marrant parce que je me disais, bon, là, après, parce que bon, elle finit mal quand même, ça représente un peu cette espèce d'ambiguïté de la fantaisie, tu vois. C'est qu'en fait, ah, nous, on n'est pas, nos pères étaient des modernes, hein, quelque part, et nous, on n'est pas des modernes, on a appris, etc. et tout. En fait, elle aussi, c'est une moderne, en fin de compte, voilà. Donc, ça, c'est assez amusant, quoi. Oui, bien sûr,
Il y a un
mais c'est.
côté pessimiste qui a été intéressant aussi, parce que bon, dans toute la polémique autour de ça, mais c'est kill your heroes, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y aura pas de messie rédempteur dans ce monde-là et que le retour, c'est le retour aux politiques et le retour aux dynasties qui vont continuer à faire le coup tordu, un peu mieux peut-être par le changement de génération de relève et tout ça, mais c'est pas du tout cette idée que ça va être une armée de dragons qui va transformer le monde. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant comme
Ouais.
pour la fin de la série. Évidemment, ça a beaucoup énervé par rapport à tout le fantasme de la quête héroïque.
Ouais.
Et justement, c'était un petit peu une vengeance du vrai Tolkien aussi, parce que comme tu l'évoques, chez Tolkien, c'est pas simple. Le retour n'est pas le retour. On ne retourne jamais. là où on est parti, et l'histoire est continue, et Tolkien était tout à fait sensible à ça. Et c'est vrai que c'était très emblématique que, malgré bon, l'immense merveille que c'est la trilogie de Jackson, mais c'est très curieux, c'est très significatif que ça n'ait pas été retenu, sûrement pour toutes sortes de raisons, mais logistique, pratique et financière, tout ce qu'on veut, narrative, mais ça reste symbolique. Et c'est vrai que le fait que Game of Thrones, lui, finisse par cette sorte de truc extrêmement sombre et au fond très anticlimatique, je pense que c'était un... Et là aussi, ce que tu évoques de façon très intéressante, c'est que c'est toujours très compliqué hein, en culture pop de parler de l'auteur et puis encore moins des intentions de l'auteur. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une autorialité multiple et qui est marquée aussi par la réception. Donc au fond, et tu le signales très bien que Martin a fini par dire oui, ok, c'est là.
Ouais, c'est ça. J'ai dit oui, c'est voilà. Donc oui, voilà, c'est assez marrant quoi. Ça c'est.
Il a été gonflé par le fait que tout le monde lui disait ce que c'était que son truc. Et si au début il est un peu comme Tolkien, qu'il veut pas avoir de lecture allégorisante, comme quand on voulait faire du Seigneur des Anneaux une image de la guerre contre le Troisième Reich. Bah finalement, lui, il a fini un peu par céder. Une autre époque aussi, peut-être, mais aussi une autre pression de la part de la réception sur les auteurs. Et donc, ce livre, je pense que tout le monde l'aura compris, qui nous écoute. Donc, c'est vraiment une très belle introduction à l'univers de la fantasy. Ça donne vraiment des bons repères par rapport au genre, à l'évolution du genre, tout en le problématisant. Et je pense que c'est très utile. Merci encore, William.
Merci à toi. Merci pour l'invitation.
Merci à tous et à toutes qui nous ont écoutés et on se retrouvera donc bientôt pour un prochain épisode.